Bonjour et bienvenue sur la micronutrition 2.0. Aujourd'hui dans ce podcast, je voulais vous parler de la manière dont vous pourriez apprendre à interagir avec vos pensées toxiques, vos pensées collantes, ces pensées qui vous font ressentir des émotions désagréables, de la peur, de la colère, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, du stress, de l'angoisse. Ces pensées qui vous font manger pour compenser. Alors pourquoi est-ce que je souhaite vous parler de la manière dont vous pourriez mieux gérer ces pensées toxiques? Tout simplement parce que je suis amenée dans ma pratique professionnelle à prendre en charge des patients qui présentent un stress chronique mal géré, en grande partie à cause de ces pensées toxiques, qui présentent des problèmes de poids ou en tout cas des troubles du comportement alimentaire, parce qu'ils sont sujets à ce qu'on appelle des envies de manger émotionnelles. Et j'ai donc appris, grâce à différents outils, à travailler sur ces pensées. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de vous donner une formule magique qui s'appliquera à tout le monde. Comme je l'explique très souvent, vous êtes tous et toutes des individus, des personnalités à part entière, et vous méritez à ce titre une prise en charge personnalisée. Néanmoins, je vais vous présenter les différents outils que j'utilise et qu'on utilise de manière plus générale en psychologie de la nutrition. Alors, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est de ralentir et de vous observer. Pourquoi ralentir? Parce que pour s'observer, il faut ralentir. Et pourquoi s'observer? Pour prendre conscience à quel point, dans certaines situations, notamment lorsque vos pensées toxiques sont extrêmement présentes, vous vous comportez de manière complètement automatique. On parle de pilotage automatique. Ralentir et vous observer. Voilà une des clés. Observez quoi? Observez le lien qui existe entre un événement, une situation, les pensées et les émotions. C'est un point important. On pense souvent que l'on peut travailler directement sur les émotions. C'est une chose que l'on peut faire. Ce sont des techniques que l'on appelle des techniques d'expansion. Accueillir, faire de la place à ces émotions inconfortables, puis faire preuve d'autocompassion. C'est un outil que j'utilise de temps en temps, mais j'avoue toujours commencer par le travail sur les pensées. Pourquoi ? Parce que justement, il existe un lien étroit entre vos pensées toxiques et vos émotions. Ce sont les pensées qu'une partie de votre cerveau va générer qui vont créer par la suite les émotions. Donc au lieu de travailler sur les émotions, travaillons plutôt sur les pensées. Ça, c'est un point vraiment important. À titre d'exemple, je vais vous donner une situation dans le cadre du comportement alimentaire pour que ça parle peut-être au plus grand nombre d'entre vous. Si je monte sur la balance, donc c'est la situation, je monte sur la balance, on est samedi matin, je monte sur la balance et je vois plus 500 grammes. C'est la situation. Une partie de mon cerveau va filtrer la réalité, va interpréter la réalité. Mon Dieu, j'ai pris du poids, à ce rythme je vais finir obèse, il faut absolument que je me prive, dès lundi je me remets à un régime sévère, c'est une catastrophe, je suis horrible, je ne trouverai jamais personne avec tout ce poids que j'ai pris, il faut absolument que je perde du poids. Tout un tas de pensées toxiques et encore là, mon faux ami aurait pu être encore moins sympa, mais bon, c'était pour vous donner une idée. Quelles sont les émotions qui vont découler de ces pensées toxiques? Toute une panoplie d'émotions. Déjà, je pourrais dire la peur de devenir énorme, d'être en surpoids ou d'être obèse, la peur de perdre le contrôle sur mon corps, la culpabilité peut-être et la honte d'avoir fait des repas plus caloriques cette semaine, la colère peut-être contre moi-même ou contre les autres. Contre moi-même de ne pas réussir à tenir mon régime que je m'étais fixé la semaine précédente. La colère contre les autres, qui eux arrivent à ne pas prendre de poids alors qu'ils mangent peut-être plus que moi. Bref, vous voyez, toute une série d'émotions désagréables qui sont finalement générées uniquement par les pensées qu'une partie de mon cerveau a créées, que nous appellerons donc à partir de maintenant mon faux ami. Alors, il existe plusieurs manières de travailler sur ces pensées, puisqu'on se rend compte qu'on ne peut pas changer l'événement. Je suis montée sur la balance, j'ai pris 500 grammes, ce sont des faits qui sont constatables, que je perçois avec mes cinq sens, et ce qui est, est. On ne peut pas changer la réalité. L'émotion est induite par la pensée, il est difficile de transformer l'émotion. On peut effectivement faire un travail d'expansion et apprendre à accueillir cette émotion. Je vous ferai sans doute d'autres podcasts sur ce sujet. Alors travaillons sur les pensées, sur ces pensées qui filtrent la réalité. Alors il existe plusieurs techniques, encore une fois. Je vais vous parler des trois techniques principales que j'ai appris à utiliser et qui découlent de différents courants de TCC, de thérapie cognitivo et comportementale. Je vais commencer par un outil qui s'appelle la restructuration cognitive de Beck, qui appartient au TCC de deuxième vague. Alors, de quoi s'agit-il ? Restructuration cognitive, à ne pas confondre avec restriction cognitive, qui n'a rien à voir. Alors, c'est une technique qui est beaucoup moins utilisée aujourd'hui, puisqu'on a développé une nouvelle vague, la troisième vague de TCC. Mais néanmoins, il y a des adeptes de la restructuration cognitive. Et pour ma part, j'ai appris à l'utiliser grâce au docteur Eve Villemur, qui est médecin généraliste formateur pour les laboratoires Insudiet et Pilège, qui est membre du collège médical pour la nutrition comportementale et qui m'a formée à différents outils, notamment l'estime, et qui me permet encore d'avancer aujourd'hui grâce à des tutorats très très intéressants. Donc la restructuration cognitive, on ne peut pas l'utiliser avec tout le monde, parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même un outil, une démarche intellectuelle qui n'est pas évidente à faire et qui ne parle pas à tout le monde. Néanmoins, j'essaye toujours de commencer par la restructuration cognitive et en fonction du patient avec lequel je travaille, je décide de garder cet outil ou de switcher avec un autre outil. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser la restructuration cognitive et en quoi ça consiste ? Ben, ça consiste tout simplement, encore une fois, à ralentir pour vous observer, pour observer les pensées qu'une partie de votre cerveau émet, et d'aller essayer de repérer dans ces pensées quels sont les filtres que votre faux ami y a intégrés. En gros, c'est apprendre à critiquer ses pensées. On retrouve la plupart du temps les mêmes filtres. Le filtre de l'exagération. Si je reprends mon exemple de la balance, je n'arriverai jamais à perdre du poids, il y a une exagération. J'aurai toujours des problèmes de poids, il y a également une exagération. J'ai pris tellement de poids alors que je n'ai pris que 500 grammes, il y a de l'exagération. Donc ce filtre de l'exagération, plus je vais exagérer, plus l'intensité de mon émotion sera importante. Donc il peut être intéressant de repérer ce filtre pour pouvoir l'enlever tout simplement et rendre l'émotion, le volume de l'émotion beaucoup moins important. On peut retrouver également le filtre de l'extrapolation. Il était également bien présent dans l'exemple que je vous ai donné. À ce rythme, je vais finir obèse. Je vais. Le verbe aller au futur. Il s'agit d'une extrapolation vers le futur qui a tendance à générer de l'angoisse, de la peur, du stress. Il y a le filtre de l'exigence également dans cette pensée. De l'exigence envers les autres qui entraîne de la colère. Pourquoi est-ce que eux, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent et ils n'ont pas de problème de poids ? De l'exigence envers moi-même, qui engendre de la culpabilité et de la honte. Je n'y arriverai jamais. Ce régime que j'ai commencé, comme d'habitude, je l'ai toujours arrêté. Je n'arrive pas à me tenir à ce que je me fixe. C'est de l'exigence envers soi-même. Il peut y avoir aussi d'autres filtres. Je ne vais pas tous vous les détailler, puisque il va y avoir un guide destiné justement à la gestion des pensées toxiques, où je vous expliquerai vraiment exactement que faire de vos pensées, quels sont tous les filtres qui peuvent être mis en jeu et comment les travailler, comment les repérer. Là, c'est vraiment une vidéo, un petit peu un podcast, une vidéo d'annonce, une mise en bouche, dirons-nous. Juste un autre exemple qui est très marquant et que je repère très 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 souvent chez mes patientes qui souffrent d'anorexie, c'est l'abstraction sélective. En gros, je vais isoler une partie de l'information et je ne retiens qu'elle pour me faire mon opinion. Je me regarde dans le miroir et je me rends compte que mon ventre s'est arrondi. Et au lieu de me regarder d'une manière globale, de prendre du recul et de regarder ma silhouette de manière globale, je vais focaliser sur ce ventre arrondi et je vais en conclure que je suis énorme et que c'est la fin du monde. Donc c'est vraiment une abstraction sélective, j'oublie tout le reste de mon corps et je me focalise sur la partie que j'aime le moins. C'est un petit peu ce qui se passe dans les complexes d'ailleurs, hein. Je complexe sur mon nez, j'en oublie que j'ai des très jolis yeux, que j'ai un très beau sourire, que j'ai une belle peau, des beaux cheveux, je ne vois que mon nez. C'est ce qu'on appelle l'abstraction sélective. Donc voilà ce qu'on fait en restructuration cognitive. Moi en séance, j'accompagne mes patients à repérer les filtres qu'ils ont dans leur pensée, déjà à repérer leur pensée, puisque vous avez bien compris, on ne peut pas changer l'événement, la situation déclenchante, il est difficile de travailler directement sur les émotions, bien que c'est un travail qu'on puisse faire par la suite. Et puis finalement, de permettre aux patients de réaliser cet enchaînement inéluctable entre événement déclenchant, pensée, émotion, comportement automatique, puisque je vous l'ai dit, nous sommes en pilotage automatique dans ce genre de situation, et conséquences défavorables. Si je reprends l'exemple que je vous ai cité il y a quelques minutes, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être mon comportement automatique lorsque je vais me peser ce samedi matin et voir que sur la balance j'ai pris 500 grammes? Si je me laisse hameçonner par tout ce que ma tête me raconte, plusieurs scénarios possibles. Un des premiers scénarios possibles pourrait être, ce week-end, foutu pour foutu, ce week-end, je vais me gaver, ça va être junk food de tout le week-end, et puis on verra bien lundi. Donc, vous vous rendez compte que ce comportement automatique va avoir des conséquences, et qu'on va se retrouver dans un cercle vicieux. Conséquences, je m'éloigne de ma santé, je m'éloigne de mes objectifs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'aurai mangé comme ça tout le week-end, je vais me sentir encore plus coupable. Donc, on est véritablement dans un cercle vicieux. Il pourrait se passer l'inverse. Je décide de me priver tout le week-end de jeûner et d'aller faire du sport à outrance. De la même manière, les conséquences pourraient être je n'écoute plus mes sensations alimentaires, je me prive, je mets à mal ma santé. Et de la même manière, on se retrouve dans un cercle vicieux, car plus on se prive, plus on risque de craquer. Donc les conséquences sont toujours néfastes, que ce soit pour nos objectifs et de manière plus générale pour nos valeurs. Et le comportement, lui, il est toujours automatique. Impossible de travailler sur ce comportement. Il faut vraiment toujours travailler en amont sur ses pensées. Il y a un autre exercice, moi, que je fais faire beaucoup, je travaille beaucoup avec cet outil, c'est la gestion des modes mentaux. Mais finalement, ça revient à repérer quels sont les filtres dysfonctionnel de nos pensées. Ça revient un peu à la même chose, c'est pas du tout le même courant, puisque là il s'agit de l'approche neurocognitive et comportementale développée par l'IME et le docteur Jacques Fradin. Moi j'ai appris à utiliser ces deux outils et je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et la gestion des modes mentaux, c'est vraiment un outil que j'utilise en permanence dans ma consultation, parce qu'il permet vraiment de se rendre compte à quel point on a une partie de notre cerveau qui crée des pensées qui sont complètement dysfonctionnelles. Alors, si ce travail de restructuration cognitive ne porte pas ses fruits ou n'est pas adapté à votre situation, vous pouvez utiliser deux autres outils qui appartiennent au TCC 3e vague. Le premier outil, c'est un outil qu'on va utiliser en méditation de pleine conscience. La pleine conscience, c'est une technique des thérapies cognitives et comportementales de 3e vague. Et puis, le second outil, c'est une autre méthode qui s'appelle l'acte-thérapie, la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ces deux outils sont fondés sur le même concept, le concept de la fusion cognitive. Alors, la fusion cognitive, c'est quoi? C'est le fait que vous soyez complètement fusionné avec votre expérience mentale. Que finalement, tout ce que votre tête vous raconte, vous y croyez dur comme fer. Votre tête fait une interprétation de la réalité, qu'elle soit vraie ou fausse, qu'il y ait des filtres ou pas, qu'il y ait même plusieurs filtres ou pas, et vous, vous croyez dur comme fer à tout ce que raconte votre tête. C'est ce qu'on appelle la fusion cognitive. Vous êtes un petit peu piégé par vos productions mentales, et c'est très difficile pour vous de faire la différence entre votre expérience des cinq sens, ce que vous voyez, les faits constatables, tout ce qui est factuel, et tout ce que votre tête vous raconte à propos de ces faits. Et ça, c'est un exercice que je fais faire très régulièrement dans un de mes protocoles ACT, d'apprendre justement à chacun de mes patients à faire cette discrimination entre leur expérience sensorielle et leur expérience mentale. Donc ce que je vais faire à l'aide de petits exercices, notamment grâce à la carte SIM. Alors la fusion cognitive, donc le fait que vous ne fassiez qu'un avec vos pensées, en soi c'est pas forcément un ennemi, parce que parfois on peut avoir des pensées qui nous portent. Hein. Par exemple, si ma tête me dit que je vais y arriver, que je peux le faire, que j'en suis capable, bah, je vais m'engager dans l'action et puis tout va bien se passer. Ici la fusion cognitive ne pose aucun problème. Par contre, si ma tête me raconte en permanence que je suis nulle, que je n'y arriverai jamais, là, si je fusionne avec ce type de pensée, ça va poser problème, parce que ça va complètement m'inhiber et ça va réduire mon champ comportemental. Donc la fusion cognitive en soi n'est pas un problème, c'est fusionner avec des pensées toxiques, des pensées collantes qui est un problème. Si ma tête n'arrête pas de me dire que je suis nulle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais douter de moi, je vais avoir une confiance en moi qui va être proche de zéro, et je vais avoir beaucoup de mal à m'engager dans l'action, à partager mes points de vue. Alors, je vous ferai également un guide plus spécifique ou une vidéo plus spécifique sur les différents niveaux de fusion cognitive, parce qu'il en existe plusieurs, et je pense qu'il y a matière à faire, et il y a de quoi partager sur la fusion cognitive. Néanmoins, je voulais juste vous en parler un petit peu pour que ça soit plus compréhensible pour vous le travail qu'on va faire par la suite. Donc si on est fusionné avec des pensées qui sont toxiques et collantes, par exemple, t'as pris 500 grammes, tu vas finir obèse, mets-toi au régime, soit je vais me priver et jeûner, et puis quelques jours après je vais craquer et faire des crises hyperphagiques, soit foutu pour foutu, je vais manger tout et n'importe quoi. Donc le but ça va être de défusionner avec ces pensées. Défusionner, c'est justement apprendre à voir, à prendre justement du recul par rapport à toutes ces pensées. Alors en pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? Les techniques de pleine conscience, on va utiliser plusieurs types de métaphores et le but va être de ralentir et d'observer ces pensées. D'observer ces pensées toxiques et d'essayer de défusionner, de prendre du recul par rapport à celles-ci. Il y a une métaphore que j'aime bien, il y a deux métaphores que j'aime bien, mais la métaphore de l'hameçon et la métaphore de la rivière. La métaphore de l'hameçon, finalement, c'est de prendre le temps de ralentir, de vous centrer sur votre respiration et de vous rendre compte à quel point vos pensées vous hameçonnent dans le futur ou dans le passé. Et elles vous font faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire, en tout cas si vous étiez la personne que vous rêveriez d'être. Imaginez-vous être un petit poisson dans une rivière, vous avez décidé d'aller vers le nord parce que vers le nord se trouvent vos valeurs, et puis se présentent à vous des hameçons avec des appâts. Et vous ne vous rendez pas compte que ce sont des hameçons, et vous mordez. Et lorsque vous mordez, qu'est-ce qui se passe? La canne à pêche vous tire à l'opposé de l'endroit où vous vouliez aller, où vous vous dirigez vers le sud. Que se passe-t-il? Vous éloignez inéluctablement de vos valeurs et des directions de vie que vous aviez décidé de prendre. J'aime beaucoup cette métaphore des hameçons et je l'utilise d'ailleurs beaucoup en consultation. L'autre métaphore, c'est la métaphore de la rivière. C'est un exercice vraiment pratico-pratique à mettre en place. C'est-à-dire que systématiquement, à chaque fois que j'ai ces pensées, hameçons qui reviennent, tu es nul, je suis nul d'ailleurs, tu n'y arriveras jamais, je n'y arriverai jamais, et que cela me tétanise, me paralyse, m'angoisse, me stresse, me rend honteuse. Me recentrer toujours sur cette respiration, fermer les yeux et visualiser une rivière avec un arbre à côté. Et de cet arbre tombent des feuilles. Sur chaque feuille, je décide de poser une pensée toxique, bien évidemment. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Et de la laisser tomber sur la rivière et s'éloigner avec le courant. Cette pensée toxique, qui est collante, reviendra sans doute. Ce n'est pas grave. Procédez de la même manière. Visualisez une feuille qui tombe de l'arbre. Mettez-y la pensée. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Et laissez-la être emportée par le courant de la rivière. C'est un exercice que je propose de faire à chaque fois que l'on sent qu'on est envahi par ces pensées toxiques pendant le temps qu'il faudra, de quelques secondes à quelques minutes. Il existe plein d'autres exercices de défusion cognitive que je vous partagerai plus en détail dans le guide « Comment mieux gérer ses pensées toxiques ». l'acte-thérapie va un petit peu plus loin et propose finalement, de la même manière, de ralentir pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais va un peu plus loin. Le but étant de pouvoir observer si ces pensées toxiques et collantes qu'émet une partie de mon cerveau me permettent de me rapprocher de mes valeurs, me permettent de m'engager dans des actions qui comptent pour moi. Vous l'avez bien compris, il faudra dans un premier temps déterminer quelles sont ces valeurs, quelles sont les orientations que vous souhaitez donner à votre vie, qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Néanmoins, la question à se poser est dans un premier temps, et si j'écoute cette pensée, qu'est-ce qu'elle va me faire faire ? On en revient finalement à cet enchaînement inéluctable de la restructuration cognitive dans une situation A. Si j'ai la pensée B, elle va entraîner une émotion C qui va entraîner un comportement automatique D et ce comportement automatique D aura des conséquences E et ces conséquences E m'éloignent inexorablement de mes valeurs et des directions que j'avais choisies pour ma vie. Donc si j'écoute ces pensées toxiques, elles vont m'éloigner de la personne que j'ai envie d'être. Le but est donc ici complètement différent de la restructuration cognitive. Il ne s'agit pas de chercher les filtres qu'il y a dans mes pensées toxiques. Il ne s'agit pas de les remettre en cause. Il ne s'agit pas de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Il s'agit juste de voir ce qu'elles nous font faire. Est-ce qu'elles nous sont utiles ou pas ? Qu'elles soient vraies ou fausses ? Peut-être qu'effectivement, si je continue à prendre 500 grammes par semaine, d'ici quelques années, je finirai en surpoids ou en obésité. Peut-être que oui, peut-être que non. Personne ne sait de quoi demain est fait. Une chose est sûre, c'est que si j'écoute cette pensée toxique qui me dit que je vais finir obèse et qu'il faut absolument que je me mette au régime, ou à l'inverse, foutu pour foutu, une chose est sûre, c'est que ces deux pensées vont me faire avoir des comportements qui auront des conséquences négatives, aussi bien sur ma santé que sur mon comportement alimentaire de manière générale. Soit je vais complètement me priver et jeûner, soit je vais faire des crises hyperphagiques et manger n'importe comment. Donc dans les deux cas, cette pensée, ces pensées ne me sont pas utiles pour être la personne que j'ai envie d'être. Bien au contraire, elles me font être une personne que je n'ai absolument pas envie d'être et je me retrouve dans un cercle vicieux. La thérapie ACT se base sur ce concept. Que me fait faire cette pensée ? À quoi me sert-elle ? Comment fonctionne-t-elle pour moi ? Et on utilise un outil qu'on appelle la matrice. Voilà, je vous ai présenté les trois outils, les trois courants de TCC, de deuxième et de troisième vague que l'on utilise pour travailler sur les pensées. Des courants qui s'opposent, hein, plus ou moins, puisque dans la restructuration cognitive, on cherche à modifier les pensées, à les critiquer. Alors que dans les TCC troisième vague, que ce soit la pleine conscience ou la thérapie ACT, on est plutôt dans une observation de ses pensées, dans l'acceptation de ses pensées et dans la diffusion cognitive. Donc prendre du recul, on ne les remet pas en cause, on prend juste du recul par rapport à ces dernières et on regarde ce qu'elles nous font faire. Pour être honnête avec vous, j'utilise ces trois techniques et je commence globalement, toujours, avec l'auto-observation. Repérer ses pensées, puis avec l'enchaînement automatique entre événements, pensées, émotions, comportements automatiques et conséquences néfastes. Et puis après, en fonction du patient, encore une fois, en fonction de ses capacités, en fonction de sa personnalité, je décide d'utiliser indifféremment la restructuration cognitive, la pleine conscience ou la thérapie ACT. Toutefois, vous l'aurez compris, la clé de toutes ces techniques, le point commun de toutes ces méthodes, c'est de ralentir pour pouvoir vous observer. Prendre cette position du soi observateur. J'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'observe à quel point ces pensées me font avoir un comportement automatique. Pour apprendre à débrancher ce pilotage automatique. Apprendre à agir plutôt que de réagir vis-à-vis de ces pensées collantes. Faire quelque chose de ces pensées collantes. Soit les critiquer et reformuler des pensées plus intelligentes, plus fonctionnelles, soit tout simplement prendre de la distance par rapport à ces dernières. Je pense que c'est vraiment un point capital si vous avez des problèmes de poids, si vous n'êtes pas en paix avec votre alimentation, parce qu'on peut ne pas avoir de problème de poids et être en permanence en guerre avec son comportement alimentaire. Ça n'a rien à voir. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, et dans un autre domaine, si vous êtes en permanence stressé ou que vous éprouvez des émotions fortement désagréables, le travail sur les pensées toxiques et collantes est à mes yeux indispensable. Apprendre à travailler sur ces pensées toxiques et collantes vous permettra réellement d'agir différemment, d'arrêter de réagir pour agir différemment, prendre le contrôle de votre vie et débrancher le pilotage automatique. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura donné des informations qui vous permettront de commencer à faire peut-être ce travail par vous-même ou de vous faire accompagner. En fonction du moment où vous aurez écouté ce podcast, un e-guide de gestion des pensées toxiques et donc des envies de manger émotionnelles aura été créé ou est en cours de création. Si vous souhaitez faire un travail un peu plus guidé, je vous invite à vous procurer ce guide ou mieux encore, prendre contact avec un thérapeute qui pourra vous apprendre et travailler avec vous sur la gestion de vos pensées toxiques. Vous permettre de sortir de cette prison mentale qu'une partie de votre tête a créée elle-même. Vous permettre de vous libérer de ce piège du langage. À votre santé.